9h30 à Paris, 8h30 en temps universel. Merci d'être avec nous. RFI vous informe. Bonjour Sébastien Duhamel.
Bonjour Juan, bonjour à toutes et à tous. Et on débutera ce journal avec la libération de la chanteuse malienne Rokia Traoré hier soir en Belgique. Elle a trouvé un accord avec son ex-compagnon pour la garde de leur enfant. Pas d'argent versé pour la libération de l'otage espagnol Gilbert Navarro. C'est ce qu'affirme ce matin sur RFI le porte-parole des rebelles du FLA qui ont œuvré pour sa libération. Les alertes qui se multiplient dans l'est de la RDC. La situation humanitaire est très préoccupante face à des combats qui s'intensifient et une diplomatie impuissante. Au Togo, la coalition Touche pas à ma constitution qui dénonce des anomalies relevées par la Cour des comptes sur le budget de l'État 2022. Et puis la maison d'édition Frantz Fanon fermée pour 6 mois en Algérie sur décision des autorités. Après son arrestation fin juin en Italie, après son transfert en Belgique en novembre, la chanteuse malienne Rokia Traoré a donc retrouvé la liberté hier à Bruxelles. Inquiétée en raison d'une condamnation intervenue en 2023 dans un conflit qui l'opposait à son ex-compagnon pour la garde de leur fille de 9 ans restée à Bamako, Rokia Traoré a finalement conclu un accord. Il aura fallu 3 audiences pour arriver à ce dénouement, Pierre Benazé.
Rokia Traoré n'était pas présente à cette 3e audience. C'est donc en prison qu'elle a appris la nouvelle de sa libération avec le père de sa fille, Yann Gossens. Les avocats ont réussi à ficeler un accord qui a été estimé de bon augure par la juge. Celle-ci a donc ordonné que Rokia Traoré soit libérée de la prison bruxelloise de Haren où elle est incarcérée depuis le 29 novembre. Maître Dimitri Debeco, avocat de Rokia Traoré.
Ce processus-là, un processus de médiation qui a duré pendant 2 semaines, a abouti à un accord qui est évidemment confidentiel mais qui porte sur l'avenir de cet enfant. Nous avons pu exposer cela au tribunal qui, sur cette base-là, a voulu donner sa chance à cet accord et donc permettre à la maman avant tout de retrouver la liberté pour que maintenant cet accord puisse se concrétiser. En réalité, la condamnation par défaut à 2 ans d'emprisonnement a été annulée aujourd'hui puisque le tribunal a reçu l'opposition de Madame Traoré à cela. Et donc aujourd'hui, Madame Traoré retrouve la liberté sans condition mais en devant encore être rejugée.
Les audiences pour valider devant un juge l'accord sur la garde de l'enfant auront lieu fin juin et ultérieurement aura lieu une autre audience liée à la non-représentation d'enfants qui avait valu 2 ans de prison à la chanteuse malienne. Mais de l'avis même des avocats du père de l'enfant, c'est une audience, je cite, pour la forme. Il semble donc y avoir peu de chances que Rokia Traoré soit condamné. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
Un procès qui doit se poursuivre ce matin au Bénin, celui de l'homme d'affaires Olivier Boko, aux côtés d'Oswald Homki et de 4 autres prévenus poursuivis pour complot contre l'autorité de l'État. Mardi, leurs avocats s'étaient désistés collectivement et à l'audience hier, seuls face à la cour, Olivier Boko et ses co-accusés ont affirmé qu'ils n'ont pas eu assez de temps pour trouver de nouveaux avocats. Des remerciements adressés hier par l'ambassadeur d'Espagne en Algérie et par Gilbert Navarro également. Ce ressortissant espagnol enlevé la semaine dernière dans le sud de l'Algérie est finalement libéré par les rebelles du FLA qui l'ont remis aux autorités algériennes mardi. On revient justement ce matin sur les conditions de cette libération car le mouvement indépendantiste du FLA, actif dans le nord du Mali, a récupéré Gilbert Navarro dans la région de Ménaka dans le nord malien, là où ses ravisseurs s'étaient rendus avant de remettre l'otage au groupe État islamique au Sahel. Mais pendant toute la durée de l'opération, le FLA était en contact avec les autorités espagnoles. C'est ce que nous explique son porte-parole Mohamed El Maouloud Ramadan.
Ceux qui conduisaient cette opération étaient en contact avec les autorités algériennes.
C'est à la demande d'Alger que le FLA a mené cette libération ?
Non, ce n'est pas à la demande des autorités algériennes. Nous avons vu que ça relève de notre responsabilité, étant donné que nous évoluons sur cet espace, particulièrement vers la zone de Tinzawaten, et que les ravisseurs les ramenaient là où nous sommes. Nous sommes contre vraiment les prises d'otages, contre les crimes organisés. Donc, ça touche à notre crédibilité et ça va de notre responsabilité de jouer un rôle pour les libérer.
Est-ce que vous pouvez préciser les contreparties ?
Pour sauver la vie de l'otage, nous avons recouru à une médiation de personnes de bons offices pour que le ravisseur laisse libre et sans qu'il y ait des coups d'effet. Sinon, ils n'avaient pas le choix des moments où ils étaient entourés par nos forces qui conduisaient cette opération.
Certaines sources, y compris au sein du FLA, assurent qu'une somme d'argent a aussi été versée.
Non, il n'y a aucun versement d'argent. Nous avons utilisé nos forces militaires, combinées avec la négociation menée par des personnalités locales qui connaissent bien les ravisseurs.
Mohamed El Maouloud Ramadan, contacté par David Baché. Ne pas prendre de sanctions fortes contre le Rwanda, c'est être complice des massacres commis dans l'est de la RDC. Ça, ce sont les mots de Patrick Muyaya, le ministre de la Communication et des Médias de RDC, qui était notre invité ce matin sur RFI. Il accuse également le Rwanda, soutien du M23, M23 d'avoir saboté le processus diplomatique de Luanda. Vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site internet. Il intervient à l'heure où les humanitaires, de leur côté, multiplient les alertes quant à la situation sur le terrain. Les blessés de guerre civile affluent, nous disait tout à l'heure le représentant de Médecins sans frontières en RDC. Et selon les Nations Unies, Paulina Zidi, pas moins de 178 000 personnes ont fui les combats ces derniers jours.
On n'a jamais vécu cette tension, confie des humanitaires évoquant les combats de ces derniers jours. Depuis le début de ce conflit, il y avait un front actif à la fois, explique un diplomate qui ajoute que désormais, les affrontements ont lieu simultanément sur plusieurs secteurs. Une montée d'inquiétude de la communauté internationale alors que la reprise du processus de discussion tarde. Si tout de suite après l'échec du sommet de Luanda mi-décembre, les experts se voulaient rassurants quant au retour des parties à la table des négociations, depuis début janvier, il y a moins d'optimisme. Le Rwanda exige des pourparlers directs entre le groupe armé et le pouvoir congolais, alors que pour la RDC, c'est une ligne rouge non négociable depuis le début des hostilités. Kinshasa continue de réclamer des sanctions ciblées contre le Rwanda, une idée qui n'est plus taboue de l'aveu de diplomates occidentaux. Reste à convaincre les pays africains actuellement membres du Conseil de sécurité des Nations Unies et ce sera l'un des enjeux de la délégation congolaise au prochain sommet de l'Union africaine mi-février. Paulina Zidi, Kinshasa, RFI.
Au Gabon, une étape importante vers la fin de la transition. Les électeurs sont convoqués le samedi 12 avril pour l'élection présidentielle. Décret adopté hier en Conseil des ministres. Un raz-de-marée pour la CRC, le parti au pouvoir aux Comores. Il décroche 28 des 33 sièges à l'Assemblée nationale selon les résultats définitifs des législatives proclamées hier par la Cour suprême. Scrutin annulé toutefois dans 4 circonscriptions pour cause d'irrégularité. Des élections partielles doivent donc être normalement organisées d'ici un mois au plus tard. Au Togo, le Front touche pas à ma constitution dénonce les anomalies relevées par la Cour des comptes dans son rapport sur le budget 2022. Le Front appelle donc à un audit de toutes les sociétés dans lesquelles l'État togolais a une participation. Écoutez ce qu'en dit Nathaniel Olympio, porte-parole de Touche pas à ma constitution.
Aujourd'hui, nous avons décidé de faire une analyse du rapport de la Cour des comptes sur le budget 2022. On a constaté des choses qui sont inacceptables. Vous prenez le port autonome de Lomé, qui est le poumon économique de notre pays. Eh bien, le port autonome de Lomé ne verse dans le budget de l'État que 1 milliard de francs CFA. C'est le plus grand port en eau profonde de toute l'Afrique de l'Ouest. Mais il y a pire. Vous prenez l'industrie des phosphates. La Société nationale des phosphates du Togo met chaque année dans le budget de l'État 0 franc. Comment peut-on expliquer cela? Est-ce qu'il y a corruption? Il faut entamer un audit général de toutes les entreprises de l'État ou des entreprises dans lesquelles l'État a une participation. Parce que ce qu'on observe est simplement inacceptable pour les Togolais.
Nathanaël Olympio, le porte-parole ne touche pas à ma constitution. C'est une petite maison d'édition, mais elle porte un grand nom. Et elle vient d'être fermée pour 6 mois en Algérie. Les éditions France Fanon, situées à Boumerdès, ville côtière à l'est d'Alger, sont sous scellés depuis le 14 janvier. Décision des autorités locales qui les accusent d'atteinte à la sécurité et à l'ordre public, ainsi qu'à l'identité nationale et de colporter un discours de haine. En cause, François Mazet, la parution d'un livre sur l'histoire du judaïsme en Algérie.
Dans l'Algérie juive, l'autre moi que je connais si peu, l'universitaire franco-algérienne Edia Ben Sali retrace l'histoire du judaïsme dans son pays de l'Antiquité à l'indépendance. Ce livre ne contient pas une virgule ni un mot de trop, estime son éditeur. D'ailleurs, paru en août 2023, il est diffusé sans difficulté jusqu'en octobre 2024, moment où les éditions Frantz Fanon souhaitent organiser la venue de l'auteur pour des rencontres dans des librairies algériennes. Le livre est alors attaqué sur les réseaux sociaux et des personnalités politiques islamistes saisissent le gouvernement. Le 23 octobre, la maison d'édition est accusée d'atteinte à la sécurité et à l'ordre public ainsi qu'à l'identité nationale et colporte un discours de haine selon le procureur. Les mêmes accusations sont reprises la semaine dernière par le Wali de Boumerdès pour justifier la fermeture pour 6 mois. Une décision illégale selon la maison d'édition pour qui l'administration ne peut empiéter sur une procédure judiciaire en cours. Fondée en 2014 avec l'accord des ayants droit du psychiatre martiniquais anticolonial, les éditions France Fanon se définissent comme progressistes et critiques de l'état de l'Algérie. Elles constatent les pressions exacerbées sur le monde intellectuel dans le pays.
François Mazet, à Alger comme à Paris, il est 9h bientôt 40 minutes. On retrouve maintenant la deuxième partie d'appel sur l'actualité. C'est avec vous, Juan Gomez.
Merci, Sébastien Duhamel.